Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Ça te va si on continue sur le thème de l'Église catholique ?
On va essayer avec nos pauvres mots.
Oui. On arrive au numéro 749 et précédemment on a dit que le Christ était la lumière de l'Église, mais il semble au numéro 749 qu'il y ait aussi un lien entre l'Église et l'Esprit Saint.
Oui. Très nettement. D'ailleurs, la fin de l'article 8 dans Les Petits en Bref le disait d'une manière ramassée, admirablement, « L'Esprit que le Christ tête répand dans ses membres, bâtit, anime et sanctifie l'Église. » Donc trois verbes. Bâtir, ça veut dire que vraiment il y a une fondation qui permet de rassembler en Christ tous les enfants de Dieu dispersés. C'est le souffle de l'Esprit. On est sous le souffle de l'Esprit qui nous pousse un peu comme dans un navire. Vous voyez, il y a une voile qui pousse vers un port. Ben, quand on atteint le port, ça y est, on a atteint ce pourquoi nous sommes rassemblés les uns les autres. C'est-à-dire que l'Église est à la fois le chemin et le but. C'est ça qu'il faut saisir. Et donc, du coup, l'Esprit Saint, bien sûr, bâtit, il anime, parce que bah, pour que la voile soit gonflée, il faut du souffle. Et donc, il y a une animation permanente. Hein. Les sacrements sont sans cesse donnés et du souffle sans cesse nous est donné. Nous sommes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dès que nous nous levons le matin et que nous commençons notre première prière, ben, nous sommes sous le souffle de l'Esprit. Et puis, il y a la sanctification, c'est-à-dire l'application de ce que Dieu demande pour nous. Soyez saints, car je suis saint. Hein, Lévitique 19, que saint Pierre lui-même reprend dans sa première lettre, hein, magnifique. Donc, soyez saints comme moi, je suis saint. Cet appel à la sanctification est donc très grand, c'est-à-dire faire de notre vie une louange de gloire, comme disait la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, une louange de gloire. Nous sommes députés au culte divin par le baptême. Donc, dès les premiers moments de notre vie, nous devons louer le Seigneur. Dès le matin, en nous levant, nous sommes des êtres faits pour la louange, hein, des êtres faits pour louer Dieu et atteindre notre finalité qui sera au ciel la même que les anges. Les anges n'ont pas d'autre finalité que de louer, bénir Dieu dans leur être par rapport à ce pourquoi ils ont été faits, louer, bénir, honorer, adorer Dieu, et nous sommes donc appelés à suivre les pas de nos frères aînés, les anges, qui sont déjà membres de l'Église universelle.
L'Esprit anime de l'intérieur l'Église, mais le Christ, lui est-il extérieur ? Comment on articule la lumière du Christ sur l'Église et l'Esprit Saint qui est dans l'Église ?
Alors, c'est un mystère, hein. On ne peut pas trop l'expliciter plus fortement que les mots qui nous ont été donnés par l'Écriture et commentés par la tradition. C'est un mystère de péricorèse, c'est-à-dire le Christ est dans l'Église, est dans le Christ, et le Christ est dans l'Esprit, et l'un et l'autre font leur demeure dans les membres de l'Église qui, chacun, est lié à ses frères et sœurs dans le Christ et forme un tout intégral, en quelque sorte, dans le Christ lui-même. C'est pour cela que nous avions utilisé cette belle expression du Concile Vatican II, nous devenons fils dans le Fils par l'effet de l'Esprit Saint. Et fils dans le Fils, ben c'est très mystérieux, hein. On ne peut pas l'expliciter plus loin que de dire nous sommes adoptés, comme dit saint Paul, et nous crions Abba Père sous l'effet du Saint-Esprit, comme Jésus se tourne vers son Père. Donc finalement, tout remonte au Père, c'est ça qu'il faut bien saisir. Hein. L'action de l'Esprit et du Christ sont conjointes, hein. Ce sont les deux mains du Père, dira saint Irénée, et les deux nous ramènent à la maison, c'est-à-dire le Père. Mmh. Et donc c'est pour cela que tout s'unifie finalement. Et le danger, c'est de vouloir trop séparer, hein, et de vouloir cloisonné, de telle sorte qu'il y a des courants contemporains qui ont été vivement critiqués et remis à leur place par le beau texte de l'époque de Saint Jean-Paul II, de Dominus Iesus, en disant « Attention, on ne peut pas faire une économie du Christ avec à côté une économie du Saint-Esprit. Hein, les deux vont toujours de pair, les deux mains du Père sont liés, c'est une image, hein, de dire de deux mains, évidemment, c'est un anthropomorphisme, mais on comprend mieux, nous autres pauvres humains, qu'on ne pourrait pas agir sans nos deux mains, et que les deux mains nécessairement œuvrent en même temps vers la même finalité, et même sur le même objet que nous sommes en train de réaliser. Et donc, l'Esprit et l'Église disent au Seigneur, viens. Et on comprend bien la finale de l'Apocalypse, qui est un appel, voyez, conjoint de l'Église, qui est distincte évidemment du Christ en tant que tel, mais qui est insérée dans le Christ, comme on va le voir, son corps et son épouse. Donc il y a vraiment un lien d'intimité extrêmement fort entre l'Église appelée corps mystique de notre Seigneur Jésus. Et ce corps mystique est constitué par l'Église.
Et pour aider nos auditeurs à essayer de comprendre ce lien, le corps, le Christ, l'Esprit Saint, est-ce qu'on peut dire que l'Église serait le corps, comme tu le dis, que le Christ en serait la tête, l'Esprit Saint pourrait être ou le sang, ou alors ou peut-être l'Esprit qui vient circuler un peu partout dans les membres.
Oui, pourquoi pas. Ce sont des belles images que qui te sont inspirées, puisque notamment Saint Thomas d'Aquin dit que l'Esprit Saint est le cœur de l'Église. Donc le cœur qui bat et qui envoie dans les vaisseaux des artères, des aortes, etc., tout le sang nécessaire de toutes nos veines qui reçoivent le sang, et c'est un sang vital. Donc on comprend très bien que sans l'Esprit Saint, ben, nous serions un corps mort. Et donc l'Esprit Saint est vraiment l'animateur, il donne l'âme. Le grand pape Léon XIII aime à dire que l'Esprit Saint était l'âme de l'Église. Donc c'est très beau.
Ah oui. Et donc on a une réalité devant nous, l'Église qui semble très impressionnante, instituée par le Christ, animée par l'Esprit Saint. Et au numéro 750, on a l'impression que l'Église elle-même, le catéchisme, dit qu'il faut croire en la Sainte Trinité, comme il faut poser un même acte de foi en l'Église, c'est ça ?
Oui, de fait, il y a eu des variations dans les tout premiers credos que l'on peut lire, par exemple, dans un ouvrage assez savant que l'on appelle le Denzinger, qui reprend un peu tous les expressions des églises particulières avant que le concile œcuménique de Nicée se réunisse en 325, et 325-2025, donc ce sont des dates historiques pour nous, 1700 ans après, nous nous réjouissons de ce moment clé du concile de Nicée et après Constantinople, qui a ajouté encore des éléments en les approfondissant, et dans lequel il y a eu une variation entre « je crois l'Église une sainte catholique et apostolique » ou « je crois en l'Église une sainte et catholique et apostolique ». Pourquoi cette différence entre dire directement « je crois l'Église avec ses qualités » ou « je crois en l'Église » ? On comprend qu'en disant « je crois en l'Église », je dis quelque chose de plus. Je ne dis pas seulement une liste de qualités. Je crois l'Église une sainte, et puis petit à petit, ça s'est ajouté, catholique, apostolique. Mais je ne fais pas seulement une liste de, dans le fond, de belles choses qui seraient attribuables, d'attributs de l'Église. En disant « je crois en l'Église », je dis « je mets ma confiance en plus en l'Église ». Et donc, il y a quelque chose de plus. Mais attention, c'est là où le numéro 750 du catéchisme de l'Église catholique met en garde. Attention, nous ne disons pas « je mets ma confiance en l'Église » comme je mettrais ma confiance en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que l'Église est une réalité créée. Hein. Rappelons-nous, nous l'avons dit, il y a une dimension visible. Et dans cette dimension visible, il y a du plus, il y a du moins. l'Église est constituée de saints, mais aussi de pécheurs en cours de conversion. Et c'est évident que ma confiance doit être discernée en fonction de cette réalité visible. Je ne peux pas apporter ma confiance de la même manière à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit que de la même manière que je le mettrais ma confiance en l'Église, une sainte catholique et apostolique, et pourtant, en cours d'unification, en cours de sanctification, en cours de catholicisation à travers le monde, en étant de plus en plus universel et restant toujours apostolique dans ses racines, puisque ce sont les 12 apôtres qui nous ont permis de recevoir cette foi grâce à leur évangélisation et qui se perdure, cette foi perdure grâce à la transmission de génération en génération par le collège des évêques, qui sont la succession apostolique directement. Donc il y a vraiment quelque chose qui émane de l'origine et qui reste identique, qui est toujours la même et l'unique Église, una, unica et semet ipsa, ce serait une belle expression pour désigner l'Église, la même et l'identique au long des siècles, qui nous transmet ces mêmes reflets de la lumière du Christ, et en même temps, qui est un peu tamisée de par le fait qu'il y a des hommes, et là où il y a des hommes, il y a toujours un peu d'homerie, et donc du coup, cette lumière est tamisée, mais elle reflète quand même le Christ, et nous devons garder donc confiance dans l'Église. Mater et magistra, disait saint Jean 23, mère et maîtresse. Et donc, à une maman, on lui fait confiance, même si elle est imparfaite un petit peu. Et on croit ce qu'elle nous dit, même si ce qu'elle enseigne n'est pas évidemment au même niveau qu'un académicien ou qu'un grand savant. Mais on croit, petit enfant, on croit ce que nos mamans nous ont dit. Et on leur a fait confiance, si vous voulez. Eh bien, l'Église demande cette même confiance à tous les fidèles vis-à-vis de l'Église que nous avons eu vis-à-vis de nos mamans, dans la mesure où elles ont été quand même, dans l'autorité et dans la vérité de ce que doit être une maman.
Merci frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.